Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, l'homme a toujours ressenti le besoin de dissimuler des informations bien avant même l'apparition des premiers ordinateurs. Alors depuis la création d'Internet, le besoin de garantir la sécurité de la transaction des informations est devenu primordial. Et pour justement garantir cette sécurité, eh bien il y a la cryptographie ou cryptologie qui nous permet de sécuriser toutes ces informations. Alors on retrouve la cryptographie dans nos cartes à puce, des informations conservées dans nos banques, également dans le domaine de la défense. Mais finalement, qu'est-ce que la cryptographie ? Où la retrouvons-nous vraiment dans notre vie de tous les jours ? Quelles sont les méthodes les plus utilisées dans le monde et en France ? Et quels sont, alors justement en France, nos centres de formation, de recherche ? Comment être certain qu'un message crypté ne pourra pas être cassé, lu, en d'autres termes, par un pirate ? Quelle place également joue la CNIL, Commission Nationale Éthique et Liberté, dans le monde du cryptage des informations? Pour en parler avec nous, Olivier Pironneau et Christophe Soulé nous ont rejoints en studio. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Alors, Christophe Soulé, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous travaillez également à l'Institut des hautes études scientifiques. Vous êtes mathématicien spécialisé dans l'algèbre et la théorie des nombres. Et puis, monsieur Pironneau, vous êtes professeur de mathématiques appliquées à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris. Donc vous êtes également membre de l'Académie des sciences, pardon, je devais quand même le préciser, dans la section mathématiques pour monsieur Soulé et dans la section...
Mécanique et informatique.
Mécanique et informatique pour monsieur Pironneau. Alors, vous avez publié un rapport suite à une enquête sur la cryptologie ou cryptographie. D'ailleurs, peut-être vous pourrez nous faire la différence entre ces deux termes. Pourquoi avoir rédigé ce rapport, monsieur Soulé ?
En 2005, s'est créé un comité qui s'appelle Science et Sécurité, donc qui est un des nombreux comités de l'Académie des sciences, qui s'est proposé comme objectif d'étudier toutes les disciplines duales, c'est-à-dire les disciplines scientifiques qui ont un impact aussi bien dans le civil que dans le militaire. Et étant mathématicien avec M. Pironneau, nous nous sommes dit que cette question de la cryptologie, dont on entend de plus en plus souvent parler dans les universités, par nos collègues qui commencent à étudier la question, avait justement cette caractéristique d'être à la fois une discipline importante dans le civil, comme vous l'avez bien dit, et également pour la défense. Et donc, il nous paraissait intéressant de faire un bilan un peu bref, en tout cas un rapport sur l'état de la cryptologie en France. Alors, sur l'autre point que vous posez la question de la différence entre terminologie, voilà, entre cryptologie et cryptographie, ce qu'on nous a expliqué, c'est que la cryptologie, c'est l'ensemble des méthodes. Et la cryptographie, c'est écrire un code cryptologique. Et la cryptanalyse, c'est essayer de le casser. Donc, la cryptographie, c'est une partie de la cryptologie.
Alors, aujourd'hui, pourquoi nous servons-nous de la cryptographie, alors, dans notre vie de tous les jours, où la retrouvons-nous, cette cryptographie ? Monsieur Pironneau.
Vous la retrouvez partout, mais vous n'en êtes pas forcément conscient. Dans toutes les transactions bancaires, d'abord. Puis
pour consulter son compte en banque, par exemple ?
Sur Internet, oui, je crois. Mais même quand vous allez chercher de l'argent dans une machine distributrice, il y a de la cryptographie pour retirer l'argent. Vous la trouvez dans des endroits beaucoup plus anodins, comme la carte de métro Navigo. Vous allez bientôt la trouver dans vos passeports.
Les fameux passeports
électroniques. Les passeports qui utilisent les RFID, dans lesquels il n'y a pas de cryptographie pour l'instant, mais il est question d'en mettre. Vous avez d'autres cartes de sécurité pour entrer dans des installations militaires, des choses comme ça, qui utilisent aussi la cryptographie. Mais
notre carte vitale, par exemple, est-ce qu'elle utilise...
La carte vitale utilise un peu de cryptographie. Tout ça, c'est d'ailleurs, si ça vous amuse, on pourra en reparler plus tard, parce qu'ils ont donné tous des lieux à débat et cassage de code, d'ailleurs. Qui fait un peu frémir, mais en fait...
Et sur la question également de la liberté des informations, savoir si oui ou non on peut utiliser ces informations sur les personnes qui disposent de ces codes.
Oui, le problème c'est qu'il s'agit de vous protéger contre l'abus d'utilisation des données qui vous sont personnelles. Par exemple, les données de santé peuvent nuire à votre réputation professionnelle si vous avez des maladies qui sont considérées comme grave et que donc un employeur peut en profiter lâchement. Et donc, vous avez ce genre de bases de données qui sont protégées par des codes.
D'où la nécessité d'avoir la CNIL qui, justement, veille à ne
Alors,
pas...
Alors, donc, c'est une spécialité un petit peu française, cette CNIL. Je crois que les Français ont été assez fondateurs dans ce domaine informatique et liberté qui n'existe pas aux États-Unis. Mmh. Et la CNIL, justement, essaye de garder des bases de données indépendantes. Par exemple, les impôts ou les choses liées à la sécurité sociale sont déconnectées des impôts, même de vos comptes en banque, de manière à ce que quand vous demandez un crédit pour acheter une maison,
on n'aille pas fouiller dans vos affaires pour voir si, par exemple, vous n'avez pas été très malade et faire en sorte que vous ne pourrez pas forcément payer votre maison.
Voilà, ou que vous avez un mauvais antécédent alors qu'en fait, vous vous êtes racheté, j'en sais rien. Mais par contre, il faut savoir quand même que tout ça est très théorique parce que la CNIL opère sur le territoire français et qu'il suffit de sortir ses bases de données en Belgique et de faire le merge en Belgique. Et j'utilise des mots anglais, mais bon. Et vous exploitez l'information en Belgique parce que c'est interdit d'exploiter en France.
Alors, on va pouvoir peut-être revenir plus en détail sur la cryptographie, comment ça marche, quel est le principe. Alors, on va peut-être remonter un peu le temps. Même si aujourd'hui, effectivement, on utilise la cryptographie essentiellement dans le monde de l'informatique, déjà, Jules César cryptait ses messages. Alors, c'était peut-être un peu plus archaïque.
Il n'était probablement pas le premier, d'ailleurs.
Et voilà, il n'était probablement pas le premier. Mais alors, comment peut-on crypter un message? Par exemple, comment Jules César cryptait ses messages? Est-ce que vous en savez un peu plus? Sur le message, le chiffrement de César.
Qu'est-ce qu'il faisait ?
C'est un chiffrement symétrique. Alors peut-être que vous allez pouvoir nous dire la différence entre un chiffrement symétrique et asymétrique, la différence entre les deux.
Je crois qu'il faut qu'on mette les choses au point. On peut peut-être vous le dire, mais on va mettre quand même les choses au point. C'est que nous ne sommes pas cryptologues. C'est une des caractéristiques de cette enquête. C'est que pour pouvoir avoir une vue, disons, un peu du dessus, détachée, il fallait prendre des gens qui sont un petit peu en dehors du système. Et donc, pour tout ce qui est technique, comme les questions que vous posez, on s'est reposé sur un certain nombre de gens, dont Jacques Stern, qui est un des spécialistes français.
Et avec qui nous allons réaliser une émission, d'ailleurs.
Et je saurais répondre à votre question si j'avais l'ouvrage que j'ai lu à côté de moi. Voilà, par exemple, La science du secret
de Jacques Stern.
Mais le code de César, c'est une histoire de coder l'alphabet avec une permutation de nombres, des choses comme ça. J'ai oublié les détails, mais c'est assez simple.
Alors voilà, c'est un chiffrement qui consiste à utiliser la même clé pour le chiffrement et le déchiffrement concernant le chiffrement symétrique. Mm-hmm. Puisque donc voilà, il y a le chiffrement symétrique et asymétrique, également ce qu'on appelle clé privée et clé publique.
Ah ouais, alors ça c'est beaucoup plus sophistiqué.
Oui, d'accord, on a déjà avancé dans le temps. Peut-être que vous en savez un peu plus sur cette question de clé publique et de clé privée, Olivier Pironneau.
Donc... La cryptologie, c'était une science qui était gardée secrète, qui était cultivée par les militaires principalement. Et jusque dans les années 1970, avec l'invention du code RSA, les gens pensaient qu'on devait garder absolument secret la façon dont on codait les informations. Et les universitaires ont démontré que c'était absurde et que ça ne servait à rien, que vous ne protégez rien du tout. Et que en fait, vous aviez intérêt à laisser laisser tout ouvert parce que justement, vous aviez ce concept de clé secrète et de clé privée, qui est la base du code RSA.
Alors voilà, on va peut-être pouvoir aborder les différentes méthodes de cryptage, peut-être pas entrer dans les détails, puisqu'effectivement, comme vous l'avez précisé, Olivier Pironneau, vous n'êtes pas tous les deux, Christophe Solé et Olivier Pironneau, cryptologues, mais peut-être que vous pourrez nous dire quelques informations. On parle beaucoup du chiffrement, alors je ne sais pas si on parle de chiffrement, du code RSA en tout cas. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire RSA, Christophe Solé ?
Il s'agit de trois mathématiciens qui sont à l'origine de ce code, à savoir... Monsieur Rivest, Shamir et Adelman. Donc, en 1978, ils font paraître un article sur leur code. Alors, le principe fondamental, c'est la différence que vous avez mentionnée entre clé publique et clé privée, à savoir qu'une partie du chiffrement se fait à l'aide d'une clé que tout le monde peut connaître, qui est la clé publique. Mm-hmm. Par contre, le déchiffrage utilise une clé privée, et la situation est telle que il n'y a plus besoin de transmettre, d'échanger des clés entre l'émetteur et le récepteur, puisque l'émetteur travaille avec une clé publique dont tout le monde dispose, mais seul le récepteur peut lire le message. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est basé sur une arithmétique extrêmement simple. Le procédé est très astucieux, mais les mathématiques mises en jeu dans le procédé sont extrêmement simples. C'est de l'arithmétique élémentaire, telle qu'on l'a fait, par exemple, en terminale de nos jours. Et je pense qu'il y a quelques années, on faisait ça en cinquième. C'est-à-dire des théorèmes comme le petit théorème de Fermat et le théorème de Bézout, qui sont les deux énoncés de base de l'arithmétique élémentaire, sont à peu près tout ce dont vous avez besoin pour comprendre le calcul qui est fait par le récepteur quand il reçoit le message.
Et ce système RSA, il est encore valable actuellement ou il est déjà dépassé ?
Il est au contraire, il a diffusé dans tous les services dont on a parlé tout à l'heure et je suis à preuve du contraire, il est parfaitement efficace.
Mm-hmm. Et si on... Alors oui, Olivier Pironneau, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, j'ajoute un bémol quand même, c'est qu'il faut que les clés soient suffisamment longues. C'est-à-dire que si vous prenez des clés trop courtes, il est cassable par un PC.
Alors une clé, soyons d'accord, c'est une succession de chiffres, d'informations,
voilà. Donc,
de chiffres et de lettres peut-être, je ne sais pas.
Il faut comprendre qu'on traduit d'abord les lettres en chiffres, ça c'est très facile. Il suffit de, par exemple, le numéro de la lettre dans l'alphabet.
Oui.
Et qu'après, on utilise deux nombres premiers qui sont des facteurs. On utilise le produit, un nombre qui est le produit de deux nombres premiers.
Et l'opération... Donc là, déjà, ça se complique.
Oui, enfin, un nombre premier, c'est un nombre qui n'est pas divisible.
Oui.
Par deux, par trois, par, mm-hmm. par les... Et vous prenez deux nombres premiers, comme deux et trois, et vous les multipliez, et ça fait le nombre six. Bon, ça, c'est un nombre trop court, parce que si vous me dites « ma clé complète est faite avec six », moi, je suis capable de dire que vous avez utilisé deux et trois. Et donc,
d'accord.
Je suis capable de retrouver la clé secrète.
La clé secrète.
Et donc, il faut faire cette opération avec des chiffres longs. On parle de 128 bits, de 1024, mm-hmm. etc. Donc, c'est basé sur cette idée-là qu'un grand nombre premier est difficile à factoriser, comme on dit.
Mais alors, par exemple...
Un produit de deux nombres premiers...
Un produit de deux nombres premiers est difficile à factoriser.
Mais alors, par exemple, dans notre vie de tous les jours, ce code RSA, par exemple, si on est sur Internet, est-ce qu'on peut justement toucher de près ce fameux code RSA ?
Non.
Est-ce que ça entre dans le domaine de la messagerie, par exemple, sur Internet, où on entre un mot de passe ? Par exemple.
Oui, c'est ça qui est très mystérieux pour les gens. C'est
quand on veut essayer de mettre des images dessus, Monsieur Pironneau.
Comment c'est possible que vous ayez une clé secrète que vous n'avez pas générée vous-même et donc que quelqu'un d'autre semble connaître, quoi. C'est ça qui est un peu bizarre. Il y a effectivement une phase de dialogue au début.
Oui.
Quand vous faites une transaction avec un site, il se passe quelque chose qui fait que vous recevez, que vous générez votre clé. Ou vous la recevez, ou vous la générez, mais... Et le fait que vous faites votre transaction après, à un autre moment et tout, fait que assez sécure, parce que on a perdu la trace de la première transaction. Donc, quand vous tapez votre nom et votre mot de passe, par exemple, même pour ouvrir un compte sur une machine, vous utilisez un compte qui est sur votre machine, une clé secrète qui est sur votre machine, et qui a été généré pour vous.
Alors que nous ne voyons pas directement, qui est sur une page cachée.
Vous ne la voyez pas. Si vous voulez, vous pouvez la voir. Mm-hmm. Mais vous ne la voyez pas.
Alors aujourd'hui, en France, quel est le système le plus utilisé ? Est-ce que vous en savez plus sur ces méthodes de code en France ?
Donc le principe de la cryptologie et la raison pour laquelle les mathématiciens interviennent de manière importante, c'est que justement, on arrive à débarrasser le problème de cette transaction et du collage des informations de tout son caractère technique et de la partie implémentation et d'isoler le problème de abstrait. Étant donné une information chiffrée, comment fait-on pour la transformer de manière illisible ? Et c'est ce problème-là qui est donné aux mathématiciens théoriciens, si vous voulez, et qui s'appelle le codage, ou le chiffrage, je ne sais pas. Et donc là, à partir de là, on peut discuter de méthodes, donc d'algorithmes. RSA en est un, il y en a d'autres, Christophe.
Alors, les autres méthodes,
oui,
Christophe Soulet.
Les gens depuis 1975, donc depuis la naissance du cryptage asymétrique, ont effectivement réfléchi à des tas de nouvelles méthodes. Et on arrive à l'utilisation de mathématiques extrêmement sophistiquées, à savoir les courbes elliptiques, pour faire essentiellement la même chose. Donc les courbes elliptiques, c'est une notion mathématique qui est très à la mode, ne serait-ce que parce que c'est elles qui ont permis de démontrer le théorème de Fermat. Donc des gens qui ont travaillé en arithmétique sous un angle effectif, c'est-à-dire calculer les grandeurs qui interviennent dans la théorie des nombres, sont souvent d'excellents spécialistes de cryptologie, peut-être pendant un an ou deux, pas forcément à vie, mais il y a une communication très, très forte entre la cryptologie et une certaine approche de l'arithmétique. Ceci dit, de notre enquête, nous avons retiré l'impression très forte que ces mathématiques sophistiquées qui permettent effectivement de faire des codages a priori meilleurs, par exemple le codage avec les courbes elliptiques requiert des clés beaucoup plus petites, ou en tout cas plus petites que celles que RSA nécessite, nous n'avons pas eu d'indication comme quoi les codages avec les courbes elliptiques a été utilisé dans la vie pratique de tous les jours. Donc si vous voulez, c'est des systèmes plus performants qui sont en réserve pour le jour où les codages implémenté, c'est-à-dire encore une fois RSA, se trouverait présenter des faiblesses. Donc les mathématiques sont un peu en avance en préparant la possibilité de que les systèmes actuels faiblissent.
Alors un autre système de cryptographie qui émerge, c'est la cryptographie quantique. Alors est-ce que c'est du même ressort ?
Il faut bien faire attention que la cryptographie quantique, une cryptologie quantique, est différente, quoique liée, aux ordinateurs quantiques.
Oui.
Alors, donc, les ordinateurs quantiques, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une possibilité, au moins théorique, de coder l'information au niveau atomique, mais de manière moins sûre, disons, donc il faut le coder plusieurs fois, puisque la rapidité d'un ordinateur est souvent liée à la distance, à la taille des parties élémentaires de l'ordinateur. Vous auriez la possibilité de calculer extrêmement vite si vous saviez faire ça. Et si vous saviez faire un ordinateur quantique, les codes RSA ne tiendraient pas. Il faudrait des clés trop longues.
Ah oui, on est quand même à un niveau encore plus élevé, là.
Oui, mais pour l'instant, c'est utopique. Ces ordinateurs n'existent pas.
Mm-hmm.
Par contre, la méthode de calcul, donc il y a des gens qui travaillent sur ces ordinateurs de manière abstraite, parce que les ordinateurs n'existent pas, et ils disent, s'ils existaient, voilà comment on les utiliserait. Donc, ils ont inventé une méthode de programmation, de calcul. Cette cryptologie quantique s'est inspirée un petit peu de ça. Donc, au vu de l'utilisateur, la cryptologie quantique est capable de vous garantir une sécurité absolue pour transférer de l'information entre A et B, même si on écoute le canal.
Parce que même actuellement, en utilisant le système RSA, on n'est pas sûr à 100%
d'abord,
de pouvoir transférer l'information sans qu'une tierce personne puisse y avoir accès.
D'abord parce que vous pouvez écouter les canaux. Donc, vous avez des informations externes sur l'objet. Tandis que là, ce que j'en ai compris, c'est que si vous écoutez les canaux, l'utilisateur de la cryptologie quantique s'en aperçoit. Donc, il existe des sociétés qui vendent...
Aux États-Unis, je crois déjà qu'il existe.
En Suisse, je ne sais pas, aux États-Unis, mm-hmm. mais au moins une en Suisse, qui vendent de la cryptologie quantique pour faire des transferts d'informations entre deux points précis.
Et qui servent essentiellement au domaine de la défense, alors peut-être
ou alors,
des services
ils nous ont pas trop dit à quoi ça servait.
Très sécurisé.
On peut supposer que oui, la société existe et elle vend des boîtes, hein, comme ça.
Mm-hmm.
On les a vues.
Vous avez
donc,
vu ces boîtes.
Là, il faudrait interviewer les spécialistes. Non, il y en a un en France qui nous a fait un petit article pour notre...
Pour votre rapport, pour votre enquête.
Rapport.
Alors, on marque une courte pause, si vous le voulez bien, Christophe Soulet et Olivier Pironeau, et on se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission. À tout de suite.
Le graveur Pierre-Yves Trémois, membre de l'Académie des Beaux-Arts, revient pour Canal Académie sur sa rencontre entre le clown blanc Pippo et le réalisateur Federico Fellini. De cette amitié naîtra un livre consacré au clown, illustré par Pierre-Yves Trémois et incluant un texte du réalisateur italien. Découvrez sans plus tarder ce témoignage unique dans notre émission Carrefour des Arts, une émission en libre téléchargement sur canalacademy.com.
« Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Christophe Soulet et d'Olivier Pironneau, avec qui nous parlons cryptologie. Alors, dans cette seconde partie, vous allez pouvoir nous expliquer quelle est la situation en France, la situation de la formation, quelles sont les universités qui peuvent justement créer, fabriquer nos prochains cryptologues, quels sont les débouchés également. Alors, Christophe Soulet, quelles sont les universités où l'on peut avoir une formation en tant que telle, cryptologue ?
Ce que nous a appris notre enquête, c'est que les centres universitaires où il existe une formation en cryptologie sont finalement assez nombreux. Il y a les endroits anciens, que sont Limoges et Marseille, qui datent de 15 à 20 ans. Mais récemment, donc dans les 5 dernières années, d'autres endroits se sont joints. Je citerai Bordeaux, Rennes, Caen. Peut-être que quand c'était un peu plus ancien, l'université de Saint-Denis. Donc il y a pas mal d'universités où la formation en cryptologie a démarré. Il faut aussi considérer que l'école polytechnique a un centre de cryptologie.
Donc, alors, parce qu'il y a une forte demande justement dans ce domaine-là ou pas spécialement ?
Parce que le sujet intéresse les gens, et en particulier les arithméticiens, comme je le disais tout à l'heure, sont très étonnés que leur discipline ait des applications aussi imprévues. Et donc, c'est un sujet populaire, je dirais. Donc, si on monte un centre de cryptologie, on trouve des étudiants. Ceci dit, les étudiants parfaits pour le sujet doivent être des étudiants multidisciplinaires, puisque la cryptologie est au croisement des mathématiques, de l'informatique et de l'électronique.
Et puis parce que tout ce qui est dans le domaine de l'informatique, justement, la cryptologie n'est qu'une brique, comme vous me le disiez pendant notre pause, Olivier Pironneau, la cryptologie ne constitue pas tout, n'est pas l'essentiel.
Donc il y a des formations en cryptologie, il y a en nombre suffisant peut-être et probablement, mais en tout cas, il y a clairement un gros problème pour la sécurité informatique en général, et là, je pense personnellement qu'il manque de formation. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une bonne formation en sécurité informatique ?
Ce n'est pas forcément que de la cryptologie, alors ?
Non, ce n'est pas que de la cryptologie, mais il y a de la cryptologie.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir une bonne formation, justement, en sécurité informatique ? Olivier Pironneau.
Oui, c'est un vaste domaine à ce moment-là. Il faut aller de l'électronique. Il y a des gens qui sont capables d'infiltrer des réseaux informatiques en écoutant les ondes électromagnétiques du réseau. Il y a des gens qui ont passé au laser des puces pour savoir ce qu'il y avait dedans. Et comme ça, ils ont trouvé une partie du code et ils ont trouvé le reste de manière analytique.
On est dans le domaine de James Bond.
Absolument.
Et ça existe ?
Ah oui, ça existe quand tout est une question de prix. Donc, ce qu'on nous a dit, c'est essentiellement les compagnies qui fabriquent des cartes bancaires, par exemple, ou des cartes de sécurité. Ce qu'ils nous ont dit, c'est que eux, ils cherchaient des gens qui étaient bons en cryptologie, qui savaient faire de la cryptanalyse, qui est peu enseignée.
La cryptanalyse, c'est casser les codes, justement ?
C'est apprendre à casser les codes.
Mais je crois que ce n'est pas autorisé.
Non.
Ce n'est pas autorisé d'apprendre aux étudiants de casser les codes.
En tout cas, pas sur des systèmes concrets. Vous ne pouvez pas leur donner comme exercice, voici une carte de crédit, trouvez-moi le moyen d'aller chercher de l'argent. Là, vous allez en prison. Et enfin, il y a une branche qui est peut-être assez spécialisée, qui est justement la partie électronique de ces cartes. Mais en tout cas, savoir non seulement les algorithmes, mais en plus savoir les implémenter sur une carte, ce qui n'est pas évident, parce qu'une carte, ce n'est pas un objet particulièrement puissant au point de vue programmation. Donc il y a toute une partie là très appliquée.
Alors, dans votre rapport, vous indiquiez qu'il y avait à peu près une centaine de cryptologues purs. Mais finalement, le nombre de cryptologues purs est une centaine, c'est un nombre suffisant, dans le sens où les autres personnes doivent être multitâches, si j'ose dire.
Oui, donc si on appelle cryptologues purs des gens dont l'activité principale consiste à écrire des codes de cryptologie, on n'arrivait pas à davantage qu'une centaine. Non pas qu'il manque de cryptologues, mais simplement pour la raison que l'activité d'écrire des codes cryptographiques peut être extrêmement centralisée. Par exemple, pour les cartes de crédit bancaires, une ou deux entreprises seulement suffisent à faire les cartes bancaires de toutes les banques en France.
Alors ça, c'est une information. En fait, les cartes de crédit sont fabriquées par deux entreprises différentes
Les
banques.
Oui, c'est ça. Hein, je crois que c'est ça, à cette conclusion qu'on arrivait. Et de même, il y a l'utilisation des codes, comme vous l'avez déjà dit, dans la défense. Et là aussi, il y a un petit centre qui s'appelle le CELAR, avec lequel nous avons été en contact, qui fait l'ensemble de la cryptographie pour toutes les armées.
Alors, le CELAR, concrètement, c'est un organisme qui se charge de transférer les informations d'un service à un autre.
Non, le CELAR est responsable, d'une part de la veille technologique dans le domaine de la cryptologie, et d'autre part de la mise au point de protocoles cryptographiques pour les armées et la communication entre les différents corps d'armée.
Donc vous avez été en relation avec eux ?
Nous avons été en relation avec eux et nous avons été assez étonnés de l'ouverture qu'ils avaient pour nous raconter un peu comment ils procédaient. Une des choses que nous avons appris, par exemple, c'est qu'il existe un séminaire commun entre l'Université de Rennes et le CELAR, donc le CELAR est pas très loin de la ville de Rennes, entre donc des mathématiciens purs dans des domaines très variés et des gens du CELAR qui se réunissent de façon hebdomadaire pour s'éduquer mutuellement sur la cryptologie.
Et alors justement, quels sont les problèmes que pourrait rencontrer l'armée française concernant la cryptologie ?
Une des personnes qui a bien voulu nous recevoir nous a expliqué que les armées modernes fonctionnaient en coopération internationale. Et que là, il y avait un problème de hiérarchie de l'information qui était très difficile à résoudre parce qu'il fallait savoir crypter des informations de manière hiérarchique. C'est-à-dire que vous voulez envoyer certaines informations à vos collègues américains, mais pas tout. Vous voulez garder une partie secrète pour le bataillon, enfin, je ne sais pas. Il y a une certaine inquiétude en particulier parce que c'est une branche qui est dirigé par les Américains, par l'OTAN, je crois. Et donc, on perd un peu d'identité nationale. Et c'est assez compliqué de trouver un moyen de crypter des informations, de garder une partie secrète dans un système où les Américains chercheraient à imposer une transparence complète.
D'informer tout en gardant quand même un petit peu pour nous.
Voilà, c'est ça qu'ils veulent.
Alors aujourd'hui, comment on peut comparer la France par rapport à ses voisins européens ou par rapport aux États-Unis concernant la cryptologie ? Est-ce qu'on est bien placé ? Est-ce qu'on a tendance à tout crypter ? Au contraire, est-ce qu'on est laxiste sur cette question-là ? Comment on se situe par rapport aux autres pays ?
Je vais passer la parole à Christophe, mais d'abord, il faut quand même rappeler que la France est leader sur les cartes à puces. Donc, la France a été...
Mais l'inventeur est français ?
Oui, le brevet en tout cas.
Le brevet ?
Et l'inventeur aussi, mais bon, les banques françaises ont opté pour un système qui est tendance à devenir... à s'imposer dans le monde entier. Dans notre enquête, essayer de placer la France par rapport aux autres pays en cryptologie... c'est une vaste question et là il faudrait que vous soyez plus précis sur votre demande. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que tous les pays utilisent plus ou moins la cryptologie un peu partout et ça c'est assez uniformément réparti de manière internationale. Il faut savoir que le protocole RSA est mondial et bon, suffit dans la majorité des cas. Et par contre, sur la quantité de spécialistes et sur le niveau de mathématiques sur les nouveaux codes et les nouvelles façons de coder, là, je n'ai pas la parole à Christophe.
Alors, Christophe Soulet, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement, sur ce
question ? Disons que, l'impression que j'aurais, c'est par rapport à ce qu'on discutait tout à l'heure d'une approche multidisciplinaire de la sécurité informatique. Bon, la France a les mathématiciens ont la tendance habituelle qui est de travailler de façon trop théorique. Et ça, on a eu des échos au niveau des entreprises de cartes à puces, par exemple, qu'elles allaient chercher des cryptologues éventuellement en dehors de France parce que, d'après elles, la formation que ceux-ci recevaient n'était pas suffisamment multidisciplinaire en France. Grosso modo, la recherche théorique en cryptologie en France est d'un niveau tout à fait honorable et comparable aux autres pays d'Europe occidentale.
Mais sur le plan de la circulation des informations, est-ce que, par exemple, les États-Unis auraient tendance à tout crypter alors que nous, on laisse encore passer des informations sans forcément les crypter ? Sur la quantité d'informations codées, doit quantifier.
Oui. D'abord, vous savez que tous les emails qui passent par les États-Unis, et vous ne savez jamais si votre email passera par les États-Unis ou pas, tous ceux qui passent par les États-Unis ou même par des centres européens que les États-Unis, disons, subventionnent, sont analysés. Donc, il y a aux États-Unis l'organisme qui s'appelle NSA, National Security Agency, qui emploie énormément de mathématiciens.
On parle d'un millier de mathématiciens.
Oui.
Oui.
Mais qui est en charge d'un certain nombre de choses, dont l'analyse de manière automatique des emails. Alors, vos emails ne sont pas cryptés. Hein. Vous pouvez crypter vos emails si vous voulez. La technologie existe et elle est à la disposition de tout le monde. Maintenant, je me demande si vous ne seriez pas suspect si vous cryptiez vos emails. Mais bon.
Ah oui, ça pourrait jouer encore contre nous, effectivement. Alors aujourd'hui, les débouchés pour ces étudiants qui ont cette formation à l'université, où est-ce qu'ils vont ensuite se centrer ? Ils vont travailler dans le domaine des banques, comme vous le disiez, par exemple, ou peut-être à la RATP, ou dans les entreprises qui auraient des secrets commerciaux à garder ?
Je vais dire juste un petit mot sur les banques. On a été très déçus de voir qu'en fait, il y avait peu de cryptologues dans les banques. Probablement parce que les banques sont très conservatrices sur les techniques avancées de cryptographie, parce qu'ils veulent essentiellement un système sûr. Ils n'ont pas le besoin, pour l'instant, d'avoir une amélioration par rapport au système RSA qui leur suffit. Et donc ils n'emploient pas de cryptologues. Ils emploient des agents de la sécurité informatique en général.
Que le système RSA n'est pas totalement infaillible.
Non.
Mais il en va de la sécurité de nos propres informations,
oui,
à nous.
Pour le rendre plus sûr, il faut tout simplement augmenter la taille des clés qui sont utilisées.
Et ça, c'est les cryptologues qui le font.
Alors, qui décide ça Mais clairement, vos cartes de crédit ont des clés trop courtes, puisqu'il y a un monsieur qui est arrivé à les casser.
Alors voilà, justement, on va peut-être pouvoir parler un peu plus du piratage, puisque si on code les informations, il y a effectivement des personnes qui décryptent, la cryptanalyse donc. Alors, comment ça se passe ? Par exemple, prenons un exemple concret. Actuellement, on peut acheter sur Internet beaucoup de choses, enfin tout et n'importe quoi. Il suffit d'inscrire son numéro de carte bancaire avec le petit code qui va avec. Alors, est-ce que ce paiement est totalement sécurisé ?
Les informations, si elles sont courtes, sont transférées, codées RSA. Si les informations sont longues, à ce moment-là, c'est l'ouverture de la session qui se fait avec le code RSA, c'est-à-dire que c'est la clé qu'on crypte. On crypte seulement la clé, et la clé d'un système de cryptage moins sûr, mais dont la sécurité est établie par le fait que vous n'allez pas passer plus de 20 minutes à utiliser cette clé. Et que ça ne suffira pas par les algorithmes automatiques pour la décrypter. Donc vous voyez, le cryptage est hiérarchique. Donc dans le cas de votre carte bancaire, ce que vous transférez est court et c'est probablement crypté par le codage RSA. Alors, s'il n'y avait pas les méthodes annexes pour casser la sécurité de transfert de l'information, vous seriez sûr quand vous envoyez votre carte de crédit, il va au bon endroit et à la bonne personne et utilisé à bon escient.
Mais. Il y a un mais.
Mais, alors là, vous sortez de la cryptologie, vous rentrez dans la sécurité informatique en général. Et donc, moi, il y a une technique qui est connue, qui a été expliquée dans les journaux, c'est qu'il y a des petits malins qui recopient complètement le
site internet, vont falsifier la page.
Le site internet, la page internet sur laquelle vous avez l'habitude d'aller pour commander quelque chose ou pour consulter votre compte bancaire.
Et donc on va pouvoir gentiment donner la clé de notre carte bancaire.
Et vous donner de manière totalement transparente, vous lui donnez tout simplement votre numéro de carte de crédit avec tout ce qu'il faut pour faire des achats. Et après, il l'utilise. Et donc il n'y a pas de problème de décryptage. Rien n'est décrypté. C'est du masque.
Mais alors, existe-t-il des pirates qui arrivent vraiment à casser, à cryptanalyser
oui.
ces clés RSA ?
Oui, il leur faut du temps. Et donc, moi, je connais deux exemples. C'est donc la carte bancaire Visa et la carte vitale de la Sécurité sociale. Et la raison, c'est que la clé est trop courte. Donc, quand la clé est trop courte, et la clé est statique en plus, c'est-à-dire qu'elle elle ne change pas. Il faut des clés dynamiques, il faut renouveler les clés pour chaque transaction. Donc, dans la carte bancaire, elle est statique Et alors, il faut faire attention parce que si je donne trop de détails, je suis, je suis susceptible de...
D'être catalogué comme étant...
comme faire direct. De la cryptanalyse, ce qui est interdit. Et donc,
en même temps, ça permet d'améliorer le fait qu'il y ait des personnes qui arrivent à casser ces codes.
Ben, c'est ce qu'on pourrait penser.
C'est
ce qu'on pourrait penser.
Les technologies duales en général. C'est pour ça que nous avons ce comité de façon générale. Ouais. C'est que, quelle que soit la question que nous étudions d'une technologie duale qui est à la fois positive et négative, on tombe dans cette ambivalence qu'on comprend un côté en étudiant l'autre. Et je crois que c'est assez typique. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est des problèmes difficiles. C'est pas du tout facile de savoir s'il est intelligent aujourd'hui d'interdire l'enseignement de la cryptanalyse à l'université. Ça paraît même à la limite ridicule, puisque pour être vraiment un bon fabricant de cartes à puces, il faut savoir comment on peut attaquer le code de la carte à puces. Donc il y a toujours cette ambivalence. Si vous diffusez trop l'information négative, elle peut se retourner contre vous. D'un autre côté, c'est nécessaire puisque la technologie ou le sujet le demande. Je crois que c'est assez général, cette difficulté à choisir.
Alors, on marque une seconde courte pause et on se retrouve tout de suite après pour la fin de notre émission. A tout de suite.
Avec Jean Pruvot, la chronique hebdomadaire Mot pour mot revisite le quotidien de la langue française, la bourde et la faribole, les immeubles et les vacances, la grippe et le bégaiement, et nous donne l'origine de ces termes qui ne sont pas si anodins qu'ils en ont l'air. Jean Pruvot enseigne la linguistique, la lexicologie et la lexicographie à l'université de Cergy-Pontoise. Toutes ces chroniques sont en libre écoute et libre téléchargement sur canalacademy.com.
Suite de notre émission éclairage en compagnie de Christophe Soulet et d'Olivier Pironneau, membres de l'Académie des sciences. Alors, pour cette dernière partie concernant la cryptologie, nous allons pouvoir aborder la question de la CNIL, Commission Nationale Informatique et Liberté, qui est une spécificité française. Alors, quelles sont les relations qu'entretiennent justement la CNIL avec cette question de cryptologie, qui est donc de coder certaines informations? Peut-être Christophe Soulet.
Oui, alors là aussi, la CNIL était confrontée à l'ambivalence des choses, à savoir qu'on peut imaginer, a priori, d'empêcher le citoyen d'utiliser la cryptologie, puisque cette utilisation peut être faite à des fins de gangstérisme, de cacher des informations à l'intérieur d'une mafia. Et donc, pendant très longtemps, il y a eu une attitude assez défensive. Vous vous rappelez peut-être que c'était il y a 5 ans à peu près, on discutait de savoir quelle longueur de clé allait être autorisée à l'usage du citoyen. Donc on voulait limiter l'usage de la cryptologie par le citoyen français. Or, la personne que nous avons contactée à la CNIL nous a bien fait comprendre que maintenant, la philosophie est totalement inverse. C'est-à-dire que la CNIL considère que la cryptologie est un excellent moyen de protéger l'individu. Autrement dit, elle encourage, là où ça ne se fait pas et devrait se faire, l'usage des méthodes cryptologiques. Les seules petites limites à cette utilisation sont les suivantes. Premièrement, à l'occasion d'une commission rogatoire, un juge peut avoir accès à n'importe quel code et à n'importe quelle information dans un ordinateur. Donc il s'agit d'enquête criminelle. Deuxième limite, si vous importez un processus de cryptologie de l'étranger, vous devez demander l'autorisation.
Donc certaines instances doivent pouvoir posséder ces clés pour pouvoir lire ces informations?
Non, moi, si j'ai bien compris, même ça n'est pas nécessaire. Donc, c'est les deux défenses qui sont. Enfin, c'est d'une part le fait que le juge puisse avoir accès au code, et d'autre part que vous puissiez pas importer de l'étranger n'importe quoi. Mais ceci étant, n'importe quel usage de cryptologie est autorisé aujourd'hui. Donc, la philosophie actuelle de la CNIL, c'est que la cryptologie est très utile aux citoyens.
Puisque, alors, dans votre rapport que vous avez donc rédigé conjointement, Christophe Soulet et Olivier Pironneau, vous faisiez référence au fait que chaque individu pouvait figurer environ dans 100 et 500 fichiers, à peu près. Hein, c'est la moyenne. C'est une personne peut figurer jusqu'à dans 500 fichiers différents et des informations qui pourraient être vendues après à des fins commerciales. commerciale ou autre. Mais effectivement, c'est un très grand nombre de fichiers. On ne s'imagine pas forcément figurer dans une centaine de petits ordinateurs différents, d'entreprises différentes. Olivier Pironneau, peut-être, si vous voulez rebondir sur ce...
Oui, ça fait peut-être froid dans le dos de savoir tout ça. Vous savez qu'à Londres, vous êtes aussi filmé par à peu près 250 fois par jour. Je crois que c'est une tendance de la société qui ne va pas s'arrêter. Alors, la CNIL, nous, on s'est bien amusé quand on a été à la CNIL. Je dois dire qu'on a été bien reçus par M. Le Hégara qui nous a fait un tableau assez formidable de cette institution qui nous a semblé très utile. Et il balaye un nombre impressionnant de problèmes dans des zones les plus inattendues.
Alors, ça
nous fait dériver sur la sécurité informatique en général, et je crois qu'on ne dira pas assez dans cette émission que la cryptologie est une brique de la sécurité informatique.
Ce n'est qu'une part.
Mmh. Et que le domaine de la sécurité informatique est en explosion et qu'il y a un grand besoin de spécialistes et aussi un grand besoin d'éducation de tout le monde.
Éducation sur quel point ?
Ben, si vous voulez, c'est pas une... Vous fermez votre porte-à-clés quand vous partez de chez vous, mais vous ne pensez absolument pas à faire la même chose sur tout ce qui est communication électronique. Il y a des exemples, ça va de votre téléphone portable, comme on a vu de manière spectaculaire avec Madame Hilton, jusqu'à votre ordinateur, donc en passant par vos transactions. Bon, ça, les transactions, les gens commencent à comprendre un petit peu.
Vous voulez dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose sur Internet ou même maintenant sur notre téléphone, il faudrait qu'on mette un code, code toutes nos informations ?
Il faudrait que vous sachiez qu'est-ce que vous risquez.
Mm-hmm.
Bon, vous mettez les codes si vous voulez. Comme on disait tout à l'heure, vos emails transitent par les États-Unis. Bon, si vous travaillez chez Airbus et vous écrivez par email à votre correspondant le dernier prix que vous avez obtenu du patron pour vendre l'Airbus, ça, c'est une information qui sera utilisée par le gouvernement américain. Il faut le savoir. Bon. Il y a des choses comme ça qui demandent une certaine éducation. Alors, maintenant, cette éducation est probablement difficile à faire. Par exemple, nous avons appris en allant à la CNIL que la CNIL avait un problème avec le système de métro Navigo parce que...
Ah oui, ça, c'est très rigolo, effectivement. Racontez-nous, la RATP.
Oui, parce que Navigo ne pouvait pas utiliser un système de cryptographie sophistiqué parce qu'il n'y a pas le temps de faire le décryptage entre la seconde où vous présentez votre ticket à la machine.
Alors, juste peut-être un petit rappel pour les gens qui n'habitent pas Paris. Le système Navigo, c'est une carte à puce en fait, qui nous permet de passer les tourniquets sans passer le
petit
ticket.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait une puce, mais au moins, il y a une information codée sur une bande magnétique, au moins.
Voilà.
Et qui permet de passer plus vite pour entrer au métro en glissant la carte, simplement.
En posant, oui.
Voilà, on a abandonné le petit ticket, le petit coupon en carte.
Ou alors, c'est un RFID, je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Enfin, bon, mais en tout cas, Monsieur Légara nous a dit que le problème, c'est que la RATP avait le désir de pouvoir démasquer les fraudeurs qui se fabriquaient une carte Navigo ou qui trafiquaient une ancienne carte Navigo. Et pour pouvoir démasquer les fraudeurs, ils avaient donc besoin de savoir si, à tout instant, il y avait un seul passager avec une seule carte. Et si jamais il y avait deux cartes, la même carte, pardon, sur deux passagers, c'est donc qu'il y avait fraude. Et donc, pour pouvoir démasquer les fraudeurs, ils ont donc enregistré, ils ont fait un système dans lequel ils enregistrent votre présence, disons,
48 heures.
L'entrée et la sortie dans le métro de toutes les cartes. Avec la conséquence que le système informatique enregistre votre trajet.
Tous nos déplacements sont
votre trajet
archivés.
Et donc, le trajet de tous les citoyens qui utilisent la carte Navigo est enregistré. Et ça, c'est une information qu'on peut vendre, qui vaut de l'argent. Et donc, la CNIL est intervenue pour éviter qu'on utilise des informations comme ça à votre insu.
Vendre les informations, effectivement, c'est interdit. Mais les avoir, les posséder, c'est également interdit.
Alors là, vous me posez une colle.
En tout cas, la CNIL est intervenue pour faire quoi alors ? Pour que ces informations soient codées ?
Une des choses, c'est que le citoyen parisien qui ne veut pas que...
Ah oui, c'est ça.
Qui ne veut pas que soit enregistré à quel endroit il est passé dans le métro avec sa carte Navigo, peut l'obtenir, mais c'est au moment de l'achat au guichet. Donc vous voyez la complication de dire je veux une carte Navigo, mais pas du type standard, etc.
Oui, puisque ça suppose qu'on soit déjà informé et que le trajet soit enregistré.
Et qui plus est, je crois qu'il faut payer un peu plus cher pour avoir le droit de ne pas être enregistré.
Ça a été la réponse.
Voilà, parce que RATP dit ça nous coûte de l'argent, donc vous payez un peu plus pour ne pas être enregistré avec l'information qui est gardée 48 heures. Et c'est comme ça que la carte Navigo va démarrer.
Non, elle a démarré.
Elle a démarré.
Combien de gens sont au courant qu'ils ont la possibilité d'acheter une carte Navigo qui n'enregistre pas le trajet? Probablement très peu.
Alors peut-être que la CNIL a joué encore un autre rôle dans un autre système, peut-être pour la capitale autre.
La CNIL s'intéresse en ce moment beaucoup aux RFID, qui sont ces petites bobines très fines de fil qui contiennent, qui s'appellent Radio Frequency Identification. Donc c'est un objet passif qui contient de l'information. Et quand vous le mettez devant un lecteur, eh bien vous pouvez lire ce qu'il y a dedans. Ça ne coûte pas cher du tout à fabriquer. Et on peut en mettre dans tous les produits. Ça va remplacer les barcodes, les codes-barres sur les étagères des supermarchés, par exemple.
C'est ce que l'on peut déjà avoir, par exemple, dans un magasin qui vend des disques. On passe le code-barre avec le petit fil derrière et on peut écouter les extraits sonores.
Voilà. Et donc, si vous payez par carte de crédit, eh bien, le supermarché a la possibilité de stocker l'information que Madame a acheté aujourd'hui tel objet. Et donc, après, ça, c'est une information qui vaut de l'argent. Et donc, la CNIL, en ce moment, est assez occupée avec ça. Pour
effectivement,
protéger
ce sont des questions auxquelles on ne penserait pas forcément. Et effectivement, la sécurité informatique nous entoure partout. Effectivement, on achète un simple disque, on pourrait être fiché, et puis après recevoir dans notre boîte mail toutes les informations qui correspondraient au disque qu'on a acheté.
Donc l'idée, c'est d'essayer de coder les informations de manière à ce que les personnes qui les enregistrent ne puissent pas les exploiter.
Alors, Christophe Soulet...
Et ça, c'était depuis très longtemps, que la CNIL se focalisait sur empêcher de croiser les fichiers, c'est-à-dire de fondre les fichiers de différentes origines, puisque en croisant les fichiers, on peut avoir beaucoup plus d'informations que les informations de départ.
Oui.
Mais alors, il y a une chose qu'on a appris qui est tout à fait intéressante dans ce domaine, c'est que pour des raisons, par exemple, d'études médicales, savoir est-ce que la consommation de tel ou tel produit provoque le cancer, il peut être impératif de croiser des fichiers, c'est-à-dire d'une part la consommation, d'autre part la maladie. Et il existe une technique typiquement cryptologique qui s'appelle le double hachage, qui permet de croiser les informations issues de deux fichiers sans pour autant fondre les fichiers entre eux. Et ça, c'est une technique typiquement de la cryptologie que la CNIL encourage vivement de façon à permettre de croiser ce dont on a besoin pour une étude donnée sans pour autant intervenir dans la vie privée des gens.
Et qui interviendrait alors principalement dans le domaine de la santé ?
C'est une des applications de ce procédé. Oui.
Qui est à l'étude ou qui est déjà
utilisée ? Et la CNIL veille à ce que des méthodes avancées de cryptologie soient utilisées dans ces cas-là.
Olivier Pironneau ?
Oui. Mais ça fait partie justement des sujets de recherche parce que là, les techniques peuvent être améliorées. Il y a un autre sujet qui occupe beaucoup la recherche aussi, c'est l'identification des photos, des images. C'est-à-dire qu'il faut savoir si une image est bien celle que vous pensez être.
Donc, c'est-à-dire
quelqu'un vous envoie une image et puis vous voulez être sûr que c'est bien l'image qu'il vous a envoyée, que ce n'est pas un pirate qui vous en a envoyé une autre au passage et qui a détourné la vraie. Donc, identification d'image. Donc, il faut trouver une méthode pour mettre une information dans une image qui ne se voit pas. Il ne faut pas la voir, il ne faut pas détériorer l'image. Il faut que l'information soit dans l'image.
Une signature,
une signature,
sorte.
Oui, exactement. Et que ce soit sûr. Et on nous a dit que ça, c'était pour l'instant pas au point.
Ah oui.
Oui.
Alors, dans votre rapport, vous êtes également penché sur ce que vous appelez une possible société en péril avec la question de l'attaque terroriste. Alors justement, vous êtes penché sur ce sujet. Quelles sont vos conclusions? Quel est le constat que vous faites? Est-ce qu'on pourrait toucher une centrale nucléaire, comme vous le soumettiez tout à l'heure avant de reprendre l'émission pendant la pause?
Donc,
Olivier Pironneau.
Donc, une des missions du groupe, c'est de voir si, justement, dans ces techniques duales, il y a des sujets ou des parades sur des grandes menaces sur la société.
Alors, le groupe comité science et sécurité.
Et en particulier, vous savez tous qu'il y a des problèmes sur les réseaux électriques qui, de temps en temps, s'écroulent. Et donc, on est assez conscient que la société est très dépendante d'un certain nombre de choses. Et la question posée, c'est est-ce que des pirates peuvent créer des problèmes graves à la société en utilisant
à travers la sécurité informatique.
Et là, je dois dire que notre enquête n'a pas franchement débouché parce que les techniques sont innombrables et les problèmes semblent innombrables.
Et puis peut-être aussi que les interlocuteurs ne sont pas forcément présents, puisque peut-être que ce n'est pas non plus l'objectif de répondre à ces questions dans le domaine de la défense.
En fait, on risque malheureusement d'y penser a posteriori. Et en particulier, je vais donner l'exemple, l'année dernière, je crois, il y a une centrale nucléaire américaine qui s'est retrouvée avec un système informatique qui a un virus.
Donc, qui a été piraté.
Et donc, c'était extrêmement grave. Parce que si quelqu'un arrive à pénétrer le système de sécurité informatique d'une centrale nucléaire, il est capable de la dérégler. Et donc, c'est extrêmement grave. Et donc, on s'est fortement inquiété de savoir comment c'était possible qu'un virus informatique arrive sur le système de régulation de la centrale. Donc, ils ont trouvé la raison, mais c'est une société de maintenance qui est arrivée avec un ordinateur de contrôle qui lui-même était infecté. Mais quand même, ça vous montre à quel point ces systèmes, le problème de la sécurité informatique est grave et à quel point il est complexe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser à tout.
Et donc, mais alors, quel est votre constat pour ici, pour la France, pour le territoire français ? Est-ce qu'on aurait encore des... Bien sûr, on peut toujours améliorer le système actuel, bien sûr, mais est-ce que, justement, il y aurait des risques, des soucis de ce côté-là ?
La première question, c'est est-ce que la France est à la hauteur des besoins en cryptologie ? La réponse est oui. Est-ce qu'on doit encourager les filières de formation en cryptologie ? La réponse est oui.
Mais
si vous l'associez à la sécurité informatique en général.
Donc à d'autres disciplines, en fait, qui touchent à l'électronique, comme vous avez pu nous en parler.
Oui, enfin, disons, on pourrait dire la cryptologie appliquée, quoi, mm-hmm. ou la sécurité...
Ce qui est déjà le cas, par exemple, à Limoges, nous avons vu que la formation est très astucieusement pluridisciplinaire.
Donc vous conseillez aux étudiants qui nous écoutent d'aller à Limoges, par exemple.
C'est des choses qu'on dit, mais beaucoup de gens l'ont pensé avant nous. Donc. Mais effectivement, d'avoir une formation large et ouverte, et ça, je pense en particulier à mes collègues arithméticiens. C'est vrai qu'on peut attirer des gens vers ce sujet parce que c'est de l'arithmétique amusante, mais je pense que ça serait leur mentir que de leur dire qu'en dehors de l'université, où bien sûr la discipline va se développer, ils vont trouver, avec une formation strictement de l'arithmétique et de la cryptologie, ils vont trouver du travail. Je crois que à cet égard, la cryptologie est très différente d'un domaine comme les mathématiques financières, dont vous avez peut-être entendu parler, qui, elles, se répandent dans les différentes banques et offrent beaucoup plus de débouchés professionnels. Je ne crois pas me tromper, Olivier.
Oui, d'ailleurs, je connais bien. Ouais. Et donc, effectivement, en maths financière, les probabilistes font effectivement des probabilités de haut niveau. Mmh. Y a des problèmes particuliers, c'est que tout le monde s'y rue. Donc là, il y a une explosion. Tous mes étudiants veulent faire des maths financières. Moi, je leur dis qu'il ferait bien aussi de regarder le côté de EDF qui a besoin de spécialistes, en particulier de mathématiciens appliqués. Et que,
mais peut-être que les carrières sont plus intéressantes dans le domaine financier.
Oui, mais si vous avez les normaliens, les polytechniciens qui vont tous en maths financières et que vous avez fait une formation, j'ose dire, moins prestigieuse, je ne sais pas si je vais me faire attraper, mais il faut quand même être conscient du fait que, bon...
D'autres secteurs sont en demande.
Oui, et que vous risquez d'être deuxième couteau dans un domaine où effectivement les besoins sont pointus.
Quelles seraient vos autres conclusions suite à ce rapport, si vous en avez d'autres de conclusions, peut-être ?
Oui, sur la question quand même de l'utilisation des techniques de pointe, comme les courbes elliptiques pour la cryptologie, là on a quand même été un petit peu surpris de réaliser, de voir que le besoin n'était pas fondamental pour l'instant, parce que les techniques classiques, type RSA, les gens s'en contentent. Il y a assez peu, on a eu un cas de personnes qui disaient oui, qu'ils allaient implémenter.
Il n'y a pas forcément de recherche, d'amélioration.
Si,
en fait.
Si, la recherche existe.
Beaucoup de recherche, oui. C'est un sujet universitaire
établi.
Mais la différence de vitesse entre la recherche et les applications est impressionnante. C'est-à-dire que c'est un système où les gens sont relativement conservateurs. Enfin, un domaine.
Eh bien, merci de nous avoir aussi bien éclairé sur ce sujet passionnant qu'est la cryptologie. Grâce à vous, on sait maintenant que le paiement par carte bancaire sur Internet, il faut se méfier du site Internet sur lequel on est. On sait qu'on est, on est fiché sur une centaine de fichiers ou jusqu'à 500 fichiers différents. On sait que... Pour continuer sur les sujets anxiogènes, on sait qu'effectivement, tout peut être cryptanalysé, c'est-à-dire donc décodé, et effectivement, on peut pire...
Potentiellement.
Les attaques terroristes dans ce domaine pourraient arriver, et d'où l'importance de la recherche pour continuer toujours à améliorer nos connaissances dans ce domaine. En tout cas, merci d'être venu dans notre studio. Donc, je rappelle quand même vos fonctions ici. Donc, vous êtes bien sûr tous les deux membres de l'Académie des sciences. Et donc vous, Christophe Soulet, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous travaillez également à l'Institut des hautes études scientifiques. Et puis donc vous, Olivier Pironneau, vous êtes mathématicien, donc dans les mathématiques appliquées à l'Institut...
l'Université Pierre et Marie Curie,
Paris 6. Eh bien, merci d'être venu et puis j'espère à une prochaine fois pour une autre émission passionnante. Merci beaucoup, au revoir. Merci.